VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par la politique ici aux États-Unis. Le président élu Donald Trump a nommé aujourd'hui son ancien rival au primaire, le docteur noir américain Ben Carson, au poste de ministre du logement et de l'urbanisme dans son futur gouvernement. Le docteur Carson a été un des premiers adversaires du milliardaire à se rallier à sa cause pendant la campagne présidentielle. Par ailleurs, Donald Trump a fait encore froncer les sourcils, cette fois à cause d'une conversation téléphonique avec la présidente de Taïwan, en raison du fait que les États-Unis ne reconnaissent officiellement qu'une seule Chine, celle de Pékin. Washington n'entretient en effet aucun lien diplomatique avec Taïwan depuis 1979. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Les médias n'ont pas attendu longtemps pour souligner la portée diplomatiquement dangereuse d'une telle démarche, faisant remarquer que depuis des décennies, le gouvernement américain ne reconnaît que la Chine communiste. L'équipe de Donald Trump a pourtant minimisé l'importance de la conversation téléphonique du président élu avec la chef d'État taïwanaise Tsai Ing-wen. C'était un appel de courtoisie, a déclaré le vice-président élu Mike Pence hier au programme télévisé ABC This Week. C'est un peu mystérieux de voir que le président Obama puisse rencontrer un dictateur assassin à Cuba l'année dernière et être salué comme un héros pour l'avoir fait. Et quand le président élu Donald Trump reçoit un appel de courtoisie du dirigeant démocratiquement élu de Taïwan, cela donne lieu à une controverse. Mike Pence admet néanmoins que Donald Trump a l'intention d'adopter une position plus ferme envers la Chine sur le commerce et d'autres questions. Il va se battre pour les emplois des Américains et nous allons cesser de perdre face à la Chine et à d'autres pays, a déclaré le vice-président élu. Jusqu'à présent, la réaction chinoise à l'entretien téléphonique entre Trump et la présidente de Taïwan a été plutôt modérée. C'était juste un coup médiatique de Taïwan, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Cela ne changera pas le fondement international de la politique d'une seule Chine que les États-Unis ont respecté depuis des années, a-t-il ajouté. Bien qu'il n'y ait pas de relations diplomatiques entre les États-Unis et Taïwan, les deux ont coopéré sur le plan militaire pendant des décennies. Le grand mystère, c'est ce que pourrait faire Donald Trump une fois aux commandes à la Maison-Blanche.
Afrique maintenant, Sénégal, une conférence sur la paix et la sécurité se tient aujourd'hui et demain à Dakar. Elle doit s'achever par une rencontre entre plusieurs chefs d'État représentant diverses régions du continent africain. Précision dans la capitale sénégalaise avec le journaliste spécialiste des questions de défense et de sécurité, Ibrahima Khalil Ndiaye, au micro de Gabi Dorsil.
Fondamentalement, ce but, c'est de mettre en contact des experts, des professionnels, des acteurs du monde de la sécurité, de la diplomatie, du monde politique, et des députés, pour quand même qu'ils puissent en débattre, puissent poser des problèmes et l'amorcer sous différents angles. C'est ça, en tout cas, l'objectif qui est visé. Maintenant, entre ce qui est dit et ce qui se fait réellement, il y a un coup de décalage et on va avoir une participation de l'ordre de 500 personnes. Le nombre a diminué par rapport à la dernière édition. Il y aura 9 plénières dans des 3 blocs différents où on parlera de différentes choses, du terrorisme à l'accès aux ressources comme l'eau, les minéraux ou autres qui sont aujourd'hui des sources de conflit. Et essayer quand même de mettre en branle des recommandations qui seront soumises à la table ronde du chef d'État qui tiendra le mardi après-midi.
Combien de chefs d'État doivent prendre part mardi à la séance finale?
Maintenant, je ne sais pas combien de chefs d'État seront réellement présents, puisque ça aussi, il y a une confusion générale. Ils n'ont pas communiqué et je n'ai pas encore eu connaissance des avions qui viennent de débarquer à Dakar transportant des chefs d'État.
Le journaliste sénégalais Ibrahima Khalil Ndiaye. Et toujours concernant le Sénégal, la décision du leader gambien Yahya Jammeh de reconnaître sa défaite à la présidentielle dans la Gambie voisine continue de faire la une de la presse en Afrique. Le départ de ce président au pouvoir depuis 22 ans va peut-être aussi changer la donne dans le conflit casamancé qui oppose l'État sénégalais aux rebelles indépendantistes de la Casamance, région du sud coincée entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Amadou Sylla, président de SOS Casamance, perçoit une réelle opportunité de paix. On l'écoute.
Oui, absolument. Parce qu'il y a jamais quoi qu'on dise, c'est un acteur clé en tant que président de la République gambienne, parce que la Gambie, c'est un pays qui partage le Sénégal en deux, qui fait que la Casamance, effectivement, n'est pas tout à fait reliée dans l'espace territorial, dans l'espace national. Donc, de ce point de vue-là, je crois que quelqu'un comme Yahya Jammeh, qui n'a certainement pas facilité le dialogue entre le pouvoir et les gens du MFDC, où il y a un problème de communication réelle qui s'est posé. Et je crois que son départ, ça ouvre une nouvelle page. De ce point de vue-là, je crois qu'il y a un vrai espoir, effectivement, qu'on peut attendre du nouveau régime gambien et aussi du régime sénégalais, parce que le dialogue, ça s'est fait en deux. Et il faut de la hauteur, en tout cas pour les deux parties, pour l'ensemble des acteurs, pour arriver effectivement vers une solution beaucoup plus attendue et beaucoup plus constructive.
Amadou Sylla, président de SOS Casamance au Sénégal.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le Ghana élimine mercredi son nouveau président, un moment charnière pour le pays selon le principal candidat de l'opposition, Nana Akufo-Addo, qui se présente pour la troisième fois à la présidence et fera face après-demain donc au président sortant John Mahama, qu'il avait battu en 2012. Au Mali, après son démarrage la semaine dernière à Sikasso, le procès de l'ancien chef de la junte malienne, Amadou Aya Sanogo, n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Le procès bute principalement sur des incompréhensions entre les organisateurs et les avocats de la défense. Pour certaines personnes, toutes ces actions ne sont que des tentatives pour faire reporter le procès. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, a recueilli quelques plaintes.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le report, voilà, parce que pour moi, tout devait être planifié, en tout cas avant le jour J qui est le 30 novembre. Donc ce n'est pas le jour J de la course qu'il faut apprendre quand même à courir.
Ce n'est pas une bonne chose, parce que les gens s'entendent à ça. Il y a la population rurale qui s'entend à ça. Il y a des gens qui savent ce qui s'est passé réellement. Il y a eu des enlèvements de personnes assassinées. Maintenant, il faut que la cour, bien, on donne la voix aux accusés et à la partie civile d'exprimer, malgré les investigations faites par les officiers de police judiciaire.
Moi, personnellement, je me suis déplacé de Kouchala pour ces garçons. Cette situation. Le mercredi, j'étais là, j'ai pas pu entrer. Aujourd'hui encore, je suis revenu. On nous demande que ça a été reporté encore. Bon, vraiment, moi, je suis pas content.
Voilà, c'était quelques réactions recueillies par notre correspondant Kassim Traoré. RDC en marge de la Journée internationale des personnes handicapées observée le 3 décembre. La RDC a organisé pendant le week-end à Goma son premier championnat de basketball en fauteuil roulant. Pour rappel, l'Est du pays a connu ces deux dernières décennies des conflits armés qui ont fait beaucoup de morts et de blessés dans la région. Suite à ces violences, le Comité international de la Croix-Rouge soigne depuis 12 ans plus de 6 000 blessés. De Goma, le reportage de notre correspondant Charlie Kasserika.
Le championnat s'est déroulé à l'esplanade de l'Institut supérieur de commerce de Goma. Durant 3 jours, un spectacle à couper le souffle a été présenté par 6 équipes. Bien merci, un athlète venu de Bukavu, 17 ans, amputé de sa jambe gauche, après avoir reçu 3 balles perdues lors d'une guerre dans sa ville de Bukavu, partage ses sentiments.
Je me suis senti très à l'aise. D'ailleurs, je me considérais comme valide en jouant ce jour au basketball avec un grand public qui est venu nous assister.
François Kalonda, il est militaire, blessé de guerre en 2008, amputé aujourd'hui aussi d'une jambe. Pour lui, la joie a été de partager les mêmes terrains de jeu entre civils et militaires, tous handicapés, ces jours de la célébration de la journée dédiée aux personnes vivant avec handicap.
Je suis l'homme le plus heureux en jouant dans un groupe d'handicapés comme moi. Ici, la casquette de militaire était à côté quand je jouais avec nos amis civils.
La responsable de la Ligue paralympique Honor Kivu, Thérèse Mabulayi, souhaite voir dans les jours à venir l'intégration et la protection spéciale des personnes vivant avec handicap.
Nous avons voulu montrer les capacités dont regorgent les personnes handicapées, juste s'ils sont capables de faire du sport qui est aussi robuste que le basket fauteuil roulant. C'est que les autres domaines de la vie, les personnes handicapées ne doivent pas être exclues. Que ce soit les militaires, que ce soit les civils, nous sommes vraiment dans le même panier, on est un peu abandonnés. Tout ça, c'est parce qu'il y a absence de cette loi qui puisse réglementer tout ce à quoi nous avons droit.
Le Comité international de la Croix-Rouge au Nord Kivu, qui accompagne les victimes des conflits armés, se félicite d'avoir soutenu ses premiers championnats nationaux de basketball en fauteuil roulant. James et les délégués communication CICR au Nord Kivu.
Le soutien qu'on a fait, c'était partie de notre programme de réhabilitation physique qu'on a eu depuis 12 ans ici en RDC. On a appuyé 6600 patients dans ces 12 ans avec des différents aides pour la mobilité, pour l'inclusion sociale. Et ces championnats font partie de ça. L'ambiance dans le terrain ici qui est derrière nous, c'était vraiment incroyable.
À marge de cette journée dédiée aux personnes vivant avec handicap, différentes associations regroupant cette catégorie de personnes ont profité pour plaider en faveur de la promulgation d'une convention sur les droits des personnes vivant avec handicap en RDC. Charlie Kasserika depuis Goma pour VOA Afrique.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.